rencontre.
À la rencontre.
À la rencontre.
De la biodiversité. De la biodiversité. De la biodiversité.
Épisode 2. Gestion et agriculture.
Mickaël Monvoisin, correspondant environnement pour l'Agence bretonne de l'Office national des forêts.
Denis Robert, je travaille à l'Office français de la biodiversité.
Et Sébastien Gervais, chargé d'études à la LPO Bretagne.
Est-ce que tu penses que la nature, elle va bien en France ?
Il y a des endroits oui, parce qu'on s'en occupe. Et il y a des endroits non, parce qu'on s'en occupe pas du tout. Il y a des recherches qui ont été faites, il y a des inventaires. Il y a plein de choses qui ont été faites pour aider la nature. Ailleurs où il y a des choses qui n'ont pas été faites, ça se voit qu'elle va mal, quoi.
Je ne sais pas si c'est maintenant qu'on doit aborder la philosophie, mais en fait, on parle de ça parce qu'on se situe là à notre échelle, en tant que mortel, par rapport à notre époque maintenant, mais la nature, elle gagnera toujours. Alors, on parle de biodiversité, d'accord, mais là, en l'occurrence, moi j'ai envie de dire que... Le monsieur, enfin la personne interrogée disait, il y a des endroits où on s'en occupe et des endroits où on s'en occupe pas. Mais c'est peut-être, c'est un débat. Moi, je me souviens d'une époque où il y avait un monsieur qui s'appelait Terrasson qui faisait des conférences qui s'appelait La peur de la nature. Et là, il remettait tout à plat. C'est-à-dire que nous, naturalistes, on assistait à ça et on se disait, mais en fait, il est en train de dire que ce qu'on fait, ça sert à rien. Mais c'était pas son propos, mais il prenait un petit peu de recul. Justement, il essayait de passer au-delà de simplement de l'échelle de l'humanité pour nous faire comprendre que on n'est que de passage, tout simplement. Et donc voilà, c'est pour ça. Est-ce qu'on l'aborde maintenant
C'est là où on est dans une conception de la biodiversité, de la sauvegarde de la biodiversité en tant que sauvegarde de l'espèce humaine. En fait, on joue sur notre propre sauvegarde. Comme tu disais, la nature, elle s'en sortira toujours. Avec une répartition des espèces différentes, peut-être quelques espèces de moins. Et encore que dans quelques millions d'années, la sélection naturelle aura fait son boulot et on aura d'autres espèces qui seront arrivées. Donc finalement, il s'agit de notre préservation en tant qu'espèce humaine.
Bien sûr, c'est très anthropo-recentré. On est rendu combien ? La cinquième ou sixième grande extinction ? La nature s'est toujours refaite derrière, avec une nature différente, c'est sûr. On n'a plus le dinosaure, par exemple. Mais c'est sûr, derrière, elle nous survivra. À moins que la Terre explose, mais globalement, elle nous survivra. Mais ce sera autre chose. Et là, c'est vrai qu'on est sur des principes peut-être philosophiques. Hein. Quelle est notre responsabilité à nous ? Est-ce que l'homme doit s'en fiche et puis on continue jusqu'au bout et puis tant pis, on provoque cette septième extinction globale ou alors on est responsable et on a un devoir aussi. Enfin, nos constitutions sont faites aussi dans le sens-là quand même, avec un devoir de transmettre à nos générations futures un patrimoine. C'est notre devoir, c'est pas juste un plaisir égoïste.
J'ai une référence qui me revient en tête. Là. Si vous voulez, on va pas aborder ça aujourd'hui, mais si vous voulez approfondir le sujet, il y a un philosophe naturaliste qui s'appelle Yves Pacalet, qui avait écrit il y a une dizaine d'années, je crois, un bouquin qui s'appelait « L'humanité disparaîtra ». Et il avait échafaudé 13 scénarios de fin de l'humanité. Alors, ça passait par l'épidémie, la guerre nucléaire, etc. Donc, tout était bien cloisonné, sauf que dans la réalité, tout n'est pas forcément cloisonné. Ça peut venir plus vite qu'on le croit. Ouais, on va aller boire un coup après, on va pas... Mais ce que je veux dire par là, c'est que, oui, moi, je trouve que ta conclusion tout à l'heure est très juste. La biodiversité fait vraiment partie de nous. On doit absolument la préserver si on veut se préserver nous, en fait. Je crois que c'est le message.
Mais alors, du coup, pour la préserver, là, la question, c'est est-ce qu'il faut toujours la gérer ?
Je trouve que c'est un autre aspect intéressant du témoignage qui vient d'être donné. C'est notre idée humaine interventionniste, issue de notre culture, que l'homme se place supérieur à la nature, l'homme doit gérer la nature, et pour caricaturer, la nature ne peut pas se débrouiller sans l'homme. Dans le milieu où je travaille, sur les rivières, l'exemple le plus flagrant, c'est qu'on a plein de personnes qui nettoient la rivière. C'est-à-dire qu'elles vont enlever le bois mort, elles vont couper de l'herbe, avec une notion que si la rivière n'est pas nettoyée, la rivière est sale, la rivière ne va pas fonctionner. ce qui est complètement anti-naturel. Et on s'évertue à dire aux gens, mais non, laissez la rivière évoluer naturellement. Du bois en rivière, ça crée de la diversité, ça crée des diversifications de faciès, ça crée des niches pour les macro-invertébrés. Voilà, ça reflète notre vision que pour que la nature aille bien, il faut qu'on s'en occupe. Ce qui peut être le cas, créer des aménagements pour certaines visées naturalistes, pour conserver une espèce parce que telle espèce a besoin de tel milieu particulier. Mais sur un cadre général, la nature se débrouille extrêmement bien sans l'homme. Et ce qu'on appelle aménagement, c'est juste la mettre en forme d'une manière qui nous convienne.
Je suis en plein dans cette réflexion en ce moment, mais c'est vrai que ça fait appel à des notions de référence. C'est quoi notre modèle de référence? Et on ne sait pas, en fait. Moi qui travaille en forêt, on parle de plus en plus de l'ancienneté des forêts. C'est vraiment important d'avoir des forêts anciennes. Mais les forêts, au Moyen-Âge, la forêt française, elle était moins de surface. On a tout défriché, il n'y avait quasiment plus rien. C'est quoi le modèle de référence? C'est la forêt d'il y a 50 ans, d'il y a 300 ans, il y a 4000 ans? C'est pas la même chose, quoi. À un moment, il y avait même pas. Enfin, l'homme n'a jamais vraiment connu les forêts. Il y a eu des grandes périodes de glaciation, les forêts ont disparu. On est sur des modèles, en fait, de référence. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi? C'est ça qui est important aussi à se poser comme question. Effectivement, oui, je trouve que c'est. On est sur des réflexions très, très en profondeur, hein, mais pourquoi gérer, pourquoi intervenir? Et je trouve que depuis de plus en plus, là, on a des modèles des pensées, des mouvements de pensée, là, qui sur le rewilding, sur la féralité, la naturalité. C'était un peu caricature il y a quelques années. Je trouve que ça commence à prendre racine et on a des grands principes, des grandes ambitions. Il y a notamment le projet de Francis Allais là, de planter 70 000 hectares d'une forêt millénaire. Alors, l'objectif, effectivement, c'est qu'on n'est plus du tout à l'échelle humaine, pour avoir des grands espaces comme ça où la nature reviendrait. On aura des grands herbivores, où les grands prédateurs reviendraient naturellement. C'est pas juste le projet de Francis Allais. Moi, j'entends dans tout mon environnement pas mal de gens qui adhèrent à ces principes-là de laisser faire.
Oui, et pour finir, par rapport à un exemple, c'est l'Élodée du Canada. Il y a quelques années, elle était considérée comme invasive. Elle ne l'est plus maintenant. Par rapport à l'écrevisse, il y a un exemple comme ça. On a fait une étude sur un golfe à Rennes, le golfe de Rennes-Saint-Jacques. Il y a 7 ans, c'était blindé d'écrevisses. Dans tous les plans d'eau, c'était que des écrevisses. Nous, ce qui nous inquiétait, c'est qu'il y avait une petite mare où il y avait du triton crêté. Il y avait 50, je crois, on avait recensé une cinquantaine d'individus. Et donc l'inquiétude, c'était de se dire, merde, les écrevisses vont finir par aller dans cette mare et ça va être foutu, quoi. Et puis 7 ans plus tard, j'ai refait cette étude et finalement, la population de crêtés se porte très bien et les écrevisses ont disparu. On s'est rendu compte que certains animaux, les hérons, les foulques, étaient devenus prédateurs des écrevisses et avaient réussi, à l'échelle simplement du golfe en tout cas, à limiter et même, je pense, à faire disparaître cette population d'écrevisses. Donc, en effet, parfois... On se prend la tête, on s'arrache les cheveux, on se dit mais comment on va faire pour... Et puis des fois, il faut peut-être simplement attendre, voir comment ça évolue, mais toujours rester alerte quand même, hein, toujours pas s'en foutre, hein, mais simplement laisser faire les choses.
Avec toujours derrière ces notions d'échelle qui encore une fois rejoignent le facteur psychologique humain, c'est-à-dire qu'on raisonne toujours à l'échelle humaine, à l'échelle de quelques années, alors qu'un cycle naturel est beaucoup plus grand que ça. Pour prendre un autre exemple, on a, nous, dans les rivières, celui du poisson-chat, qui est arrivé il y a quelques décennies, qui a pris une place énorme dans les cours d'eau, qui a entraîné des grandes actions de tentatives d'éradication de l'espèce, avec aucun succès, parce qu'on était dans une perspective à court terme de devoir enlever cette espèce des cours d'eau. On s'aperçoit maintenant que 60 ans après, moi qui travaille beaucoup sur les espèces des poissons-chats, ça devient rare quand j'en trouve, en fait. Et donc, l'espèce d'elle-même, sur plusieurs décennies, a eu une phase d'expansion, mais maintenant dans une phase de régression. Et quelque part, le cortège naturel reprend sa place dans ce cours d'eau.
D'intégration, presque, finalement.
Oui.
Ouais.
Il faut laisser le temps à la nature, en fait. Hein. C'est vrai que c'est pas un sujet facile, hein. Les espèces invasives, c'est la quatrième source d'extinction de la biodiversité au monde. C'est pas rien du tout, quand même. Hein. Mais effectivement, on a des espèces invasives qui sont là depuis longtemps. On voit que ça se gère un peu tout seul, hein, finalement. Hein. Mais de toute façon, on a essayé d'intervenir. Ça coûte des milliers d'euros, des millions même d'euros, si on voulait vraiment agir, et on n'est jamais sûr du résultat. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'argent, il va mettre ailleurs. Effectivement, il vaut mieux laisser évoluer, maîtriser par contre, ne pas, dès qu'il y a des nouveaux foyers, intervenir. Il y a des foyers, alors là on parle un peu des espèces invasives animales, mais quand on parle de la Jussie, de la renouée du Japon...
Il faut avoir des gestes barrières.
Ouais, il faut avoir des gestes barrières. Il faut masquer les espèces invasives.
Et on constate, nous, que finalement la meilleure prévention contre une espèce invasive, c'est la bonne santé du milieu d'accueil. C'est-à-dire qu'un milieu naturel, avec son cortège d'espèces en équilibre, va être beaucoup plus résistant à l'arrivée d'une espèce invasive qu'un milieu déjà perturbé. Pour prendre l'exemple d'une rivière, une rivière bien naturelle, avec tout son cortège d'espèces, est dans un équilibre qui va rendre difficile l'installation d'une espèce invasive. À l'inverse, une rivière recalibrée, on a des trous dans les niches écologiques, il va y avoir des places à prendre qui vont être plus faciles à prendre pour une espèce invasive.
On l'a à peine abordé sur le thème de la biodiversité, mais c'est un peu, peut-être un terme sous-jacent, mais c'est la notion d'équilibre.
Et bah merci à vous. Maintenant, on va passer à l'agriculture et la biodiversité.
La place du milieu agricole par rapport à la nature, c'est quoi ta vision
En sorte, oui, c'est sûr, il y a des grosses parcelles et tout à cause du matériel agricole maintenant. Après, mon avis, c'est que, ouais, c'est sûr, il y a des grandes parcelles et tout, on détruit les et tout. Mais après, on est de plus en plus de monde en France, alors il faut plus de rendement pour nourrir un peu tout le monde. Sauf qu'en France, on ne sait pas se nourrir avec nos propres choses, on préfère aller chercher ailleurs. C'est ça que les personnes ne comprennent pas, quoi.
Bon, c'est réel. Sujet un peu dense, là, je pense qu'on va partir sur une émission de 3 jours. Mais, juste, je rappelle le contexte. Hein, les dernières études de l'Union internationale de conservation de la nature ont ciblé comme la première cause de destruction des milieux naturels l'agriculture. Alors, ce n'est pas les agriculteurs, je ne stigmatise pas sur les gens, mais c'est vrai qu'on a une politique agricole depuis peu de temps, en fait, hein, depuis 40-50 ans, qui a été extrêmement destructrice. Et effectivement, je veux bien croire qu'on doit proposer la diversité alimentaire à différentes qualités, il faut nourrir la planète, je veux bien, mais ce discours de nourrir la planète, je crois qu'il ne tient plus la route. Aujourd'hui, les gens sont... Il y a la question du prix, c'est sûr, mais la question de la qualité devient primordiale par rapport au prix, je pense. Hein, donc, et je pense que les deux ne sont pas incompatibles, d'ailleurs.
Tout à fait. Il y a des exemples. Je pense qu'il y a certaines régions en France, et c'est prouvé, hein, les derniers réservoirs de biodiversité, c'est le bord des routes. Parce que c'est une zone où on va laisser pousser l'herbe, qu'on va faucher ou broyer. Mais dans le meilleur des cas, ce qu'il faudrait, c'est la faucher, l'exporter. Mais en tout cas, c'est un constat, je veux dire, c'est comme ça. Mais en même temps, faire des réserves naturelles à droite, à gauche, qui ne sont pas connectées les unes aux autres, n'a aucun intérêt. Donc, force est de constater que si on veut améliorer les choses, il faut qu'on travaille avec l'agriculture. C'est quand même le principal aménageur de notre planète. C'est le principal gestionnaire, l'agriculteur, de la nature. Donc, il ne faut surtout pas leur jeter l'anathème. Bien au contraire, je pense qu'il faut valoriser le travail qu'ils font quand ça va dans le sens de la préservation de l'existant, déjà, en termes de biodiversité, et puis quand ils peuvent mener des actions qui seront favorables à la nature, mais qui vont de toute façon les aider eux aussi par rapport à leur culture.
Oui, d'autant qu'on voit bien qu'avec le changement climatique, l'agriculture va avoir des mutations forcées. L'exploitation du maïs devient de plus en plus compliquée parce qu'on a de moins en moins d'eau. Alors, on est en train de trouver des nouvelles espèces de maïs qui se contentent de très peu d'eau. Mais ça illustre quand même que notre changement de modèle agricole, il est en marche. La complexité, c'est qu'on est sur l'inertie d'un modèle dans lequel on est parti à fond pendant des décennies et qu'on ne peut pas inverser la vapeur du jour au lendemain pour tout un tas de raisons, hein, qu'elles soient économiques, l'endettement des agriculteurs, le modèle agricole, la structure des exploitations, qu'on est dans un retournement qui risque de prendre du temps.
Il faut vraiment sortir cette opposition environnementaliste et agriculteur. Je pense qu'on a vraiment tout intérêt à travailler ensemble. Parfait, hein. L'agriculture en Bretagne, c'est 76-77% du territoire. Donc l'enjeu, c'est eux qui le portent, hein. C'est pas nous. Hein. Vraiment, Bon, je me suis déjà accroché, hein. Je suis investi dans le milieu associatif. Je sais que le cas des zones humides, c'est toujours un cas difficile, hein. Travailler sur les PE, le recensement des zones humides, on sent bien que ça tire vers le bas.
Les algues vertes.
Comment ?
Les algues vertes.
Ouais, les algues vertes, voilà. Enfin, c'est des sujets très très lourds, hein, sur lesquels il est difficile de s'entendre, par modèle de culture, hein, c'est tout. Hein. Mais je me rappelle avoir fait une fois, dans ces débats un petit peu houleux, là, un peu tendus, dire à un moment un agriculteur, mais vous savez, moi, c'est pas votre parcelle de mai, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se passe autour. C'est la bordure du champ. Et là, j'ai vu relever un peu la tête et dire, ah bon, bah, ils sont pas si chiants que ça, les naturistes. Mais c'est, je pense qu'il y a il y a un problème de dialogue, hein. On est sur des oppositions de principe, on a du mal, hein. Je pense que l'actualité ne nous a pas aidés, mais aujourd'hui, il y a vraiment, en tant que ça, il me semble que des associations de protection de la nature tendent la main. Il y a plein de programmes, je crois que la LPE, elle en a, la Bretagne Vivante, qui est une grosse association bretonne, a aussi un projet, il y a plein de possibilités de travailler ensemble. Il faut des exemples, il faut rassurer aussi, hein. Il faut réussir à s'entendre, mais je pense que l'avenir, il est là.
Hein. Le choix, il est politique, en fait, parce que je pense que les agriculteurs, ils seraient partants, à partir du moment où, bien sûr, ça leur coûte pas grand-chose, parce que c'est pas le but, hein. C'est pas à eux d'investir là-dedans, parce que c'est le bien commun. Donc ça doit être un choix politique. Nous, on a des actions qui sont toutes prêtes. Hein. On a plusieurs campagnes. On a Déterrer des ailes, par exemple, qui est une campagne nationale. Il y a des campagnes un peu plus locales qui s'appellent Paysans de nature. Bref, il y a des programmes qui existent. Ce qui manque, c'est les financements. Voilà. Les financements, ils ne peuvent pas venir des agriculteurs. Ils n'ont pas de sous. Ils ne peuvent pas venir des associations. On n'a pas forcément de sous, donc ça ne peut être qu'un choix politique. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est à eux de montrer le cap, quoi.
Ce qui est intéressant aussi à prendre en compte, c'est que le modèle agricole intensif tel qu'il est mis en œuvre aujourd'hui, on s'aperçoit de plus en plus qu'il n'est pas le plus productif. Et que finalement, on a des exploitations en agroforesterie, ou en micro-exploitation qui, en rendement à l'hectare, sont bien plus efficientes qu'une grande parcelle agricole de monoculture. Et qu'on a des problèmes aujourd'hui de mécanisation qui est inadaptée à cette nouvelle vision, mais qu'avec un changement des pratiques au fur et à mesure, on a des perspectives ouvertes qui sont très intéressantes.
Il y a beaucoup de choses à dire, hein, sur ce sujet-là. En tout cas, je crois que le message qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas s'opposer les uns aux autres. Il faut essayer de travailler main dans la main. Il ne faut pas montrer du doigt les agriculteurs, parce qu'ils sont pas, voilà, c'est pas tous des bourrins, loin de là. Ils ont simplement besoin, peut-être, qu'on leur donne des conseils, voilà, et qu'on les aide dans cette démarche-là. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont prêts à ça.
C'est une profession extrêmement en souffrance. On parle souvent du taux de suicide chez les agriculteurs qui est énorme. Hein. C'est vrai que c'est une profession en souffrance et je pense que retravailler dans des meilleures conditions, peut-être avec des meilleurs rendements et puis une meilleure valorisation de leur métier, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'agribashing, je sais que je vois bien que c'est dur, hein, pour eux. Les gens sont. C'est un métier de passion quand même. On n'est pas agriculteur suite à un concours et on est placé au hasard comme ça dans une ferme. C'est quand même un métier de passion, c'est un métier qu'on a choisi. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour tous ensemble. Hein. Il y a un aspect qui est important. Là, tout de suite, je parlais des bordures et des haies, mais je crois qu'encore pire que ça, c'est le sol. En agriculture, c'est peut-être une biodiversité invisible. Aujourd'hui, l'agriculture, comme elle a été faite depuis les 30 dernières années, là, je parle de vraiment l'agriculture intensive, a complètement bousillé les sols. Et pourtant, le sol, c'est quand on parle d'argent, quand on parle de financement, il y a peu d'études là-dessus, mais en Angleterre, en Irlande, ils avaient estimé le travail, financièrement, le travail rendu par les vers de terre. Ça revenait à 4 milliards d'euros par an. Mais aujourd'hui, les sols, on parlait des champs de maïs tout à l'heure, il n'y a pas de vers de terre dans les sols de maïs. Donc 4 milliards, s'il fallait le faire à la main, quoi, à la place des vers de terre. Et du coup, voilà, on passe quoi ? On passe par des traitements, on passe par des épandages, après on parle des algues vertes, on parle de la qualité des eaux des rivières, mmh. Voilà. C'est sans fin, puisque moi, l'agriculteur, quand il me dit « Oui, mais bon, moi, j'ai rasé la haie parce que c'est plus commode pour mon tracteur, tu peux comprendre, quand je loue une non-sileuse, ça me coûte 4 euros la minute, donc moi, il faut que ça tourne. » Je dis, bah ouais, mais en coupant la haie, d'après toi, combien je paye moi dans ma facture d'eau pour traiter tout ce qui arrive dans la rivière directement ? Tout le monde paye aussi pour ça. Donc je pense qu'il y a une raison à retrouver sur les pratiques. Mais je suis d'accord avec Denis, il va falloir de l'inertie, quoi. C'est vrai qu'il y a un modèle qui a inversé complètement. La PAC est en cours, hein, de discussion aussi. Hein. C'est le moment de s'exprimer. Hein.
Sans compter que pour lui, les effets ne seront pas dans l'année qui suit, mais peut-être 10, 15 ans plus tard, les effets négatifs. C'est encore la même chose, une question d'échelle qu'on n'arrive pas à percevoir.
Et puis une difficulté à mon sens financière, au sens où on sort de décennies, où on a une logique de pousser les agriculteurs dans une mécanisation de plus en plus grande, avec des investissements derrière de plus en plus importants, desquels ils se retrouvent aujourd'hui prisonniers, puisqu'ils ont des crédits à rembourser qui imposent des productions fortes derrière, et la difficulté des coûts qui s'ensuit. Je connais un agriculteur céréalier qui vend son maïs ou son blé, je ne sais plus, je crois que c'est le blé, 2 ans à l'avance. C'est-à-dire que quand le cours du blé est haut, il vend sa production 2 ans à l'avance. Et donc si 2 ans après, on est dans une mauvaise année, il doit honorer sa production, sauf qu'il a déjà vendu il y a 2 ans, sauf qu'il ne peut pas la vendre puisqu'on est dans une mauvaise année de production. Donc il faut qu'il rachète du blé pour honorer sa commande. Mais sachant que comme il n'y a pas beaucoup de blé, les cours sont hauts à ce moment-là. Et ça explique des logiques financières qui finalement sont déconnectées d'un certain bon sens paysan et qui met, je pense, aussi beaucoup d'agriculteurs en souffrance.
Alors qu'à la base, la paysannerie, c'est le bon sens, justement. C'est savoir observer, savoir faire avec la météo, avec le climat, avec le sol. Il y a des références chez nous en France, c'est Lydia et Claude Bourguignon, qui sont issus de l'INRA à la base, et qui ont étudié tous les sols de la planète. Et parfois, ils sont abasourdis de voir la qualité des sols en France. Et pour eux, certains sols vont se reconstituer au bout de 30 ans. Donc, c'est assez dramatique.
On va passer au témoignage suivant, du coup, toujours un peu dans la même thématique.
Il y a beaucoup de personnes qui disent que ouais, les pesticides, c'est sûr, ça fait du mal, mais il y a beaucoup de personnes qui disent, à les entendre parler, ça tue tout. Alors que chez nous, là, on a un apiculteur là, qui a 8 ruches juste à côté du champ qu'on cultive avec des pesticides. Et chaque année, il les garde. Et alors, je vois pas pourquoi il les enlève pas si ça détruirait les abeilles, par exemple. Donc, ça fait du mal, c'est sûr, mais pour autant qu'on le pense.
Oula. Bah oui, encore une fois, voilà, un témoignage qui doit être mis dans son contexte. Ça veut dire qu'il faudrait connaître l'espèce, en particulier l'abeille. Est-ce que c'est de l'abeille noire? Est-ce que c'est de l'abeille? Enfin bref, je suis pas un spécialiste des abeilles. Il faudrait savoir aussi quels produits utiliser. Parce qu'il y a des produits dont les abeilles sont plus sensibles que d'autres. Donc, ça, c'est un discours, oui, qui peut s'entendre, mais qui doit être recontextualisé.
Puis finalement, faut le traitement. Tous les traitements sont pas insecticides. Hein. Le gars traite peut-être contre l'herbe. Hein, donc, effectivement, faut pas. Là, clairement, on est quelqu'un. J'ai l'impression d'être en face de quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité. On cherche des prétextes, on s'accroche à des bouts de ficelle pour dire « continuons, on va droit dans le mur, c'est pas grave, la preuve c'est que ça fonctionne, il y a encore des abeilles. » La preuve hier, c'est que mon fils s'est fait piquer par une abeille. Non mais on en est là, quoi. Il y a un moment, je pense qu'il y a assez d'indicateurs comme ça aujourd'hui pour dire stop. Quoi.
Et puis on est dans des principes de précaution où il y a des substances utilisées aujourd'hui dont on ne connaît pas les effets à long terme. Il y a des substances qu'on ne retrouve pas pour l'instant parce qu'on ne sait pas les détecter. Et puis, il y a des connaissances qu'on acquiert avec le temps. J'ai fait un BTS gestion protection de la nature il y a 20 ans, donc le même que celui qui est fait aujourd'hui. On nous apprenait que le Roundup était un très bon produit. Parce qu'à l'époque, on nous disait que la concentration létale du Roundup est inférieure à celle du sel. Donc, c'est un produit qui n'est pas nocif. Voilà, 20 ans après, on a un peu changé de conception sur le sujet.
On en buvait d'ailleurs.
Tous les matins. C'est pour dire que notre connaissance, elle évolue avec le temps et on a institué un principe de précaution parce qu'il y a des procédés qu'on emploie aujourd'hui dont on ne connaît pas les effets à long terme.
Les procès faits à Monsanto aujourd'hui sont faits par des agriculteurs, hein. C'est pas fait par des associations de protection de la nature. Hein. Donc c'est clairement, c'est eux qui les ont utilisés, eux qui savent aussi les revers. Hein.
Et donc, si on pense à une agriculture bio, voilà, on a un petit témoignage contre.
Si par exemple tous les paysans sont en bio, si ça nourrirait toute la population française? Ça, je suis pas sûr. Enfin, je pense pas.
Oui, si en effet on reste dans notre mode de consommation actuel, Oui, ça pose problème, mais la prise de conscience, elle doit être globale, et elle doit être aussi être en parallèle avec une remise en question de notre mode de vie, de notre alimentation. C'est un sujet global, et pas seulement lié bio, pas bio, quantité de production. C'est encore une fois des a priori auxquels il faut essayer de trouver des contre-argumenter en tout cas.
L'agriculture biologique, c'est une des solutions, c'est pas la solution. On peut aussi, aujourd'hui, on voit plein de modèles un peu intermédiaires sur l'agriculture raisonnée. Je ne connais pas tous les labels ou tous les noms, mais il y a plein de schémas intermédiaires. Mais faisons les choses avec conscience déjà. Moi, je trouve que pendant des années, on ne s'est pas posé la question, mais chaque geste qu'on fait a un impact, ayons conscience de ça. Moi, je ne demande pas, souvent, on me demande de faire des petites interventions sur la gestion différenciée, sur les jardins. Effectivement, je leur dis, moi, je comprends que les gens soient tentés quand ils ont planté leur haricot ou leur radis et que quand ça lève. Les limaces en bouffent les trois quarts et que ça ne fonctionne pas, et qu'on soit tenté par mettre des petits granules, ok, mais faut se poser la question déjà, est-ce qu'on a besoin de bouffer tous les radis qu'on plante, qu'on sème, je ne suis pas sûr, et puis après, faisons les choses avec conscience. Moi je trouve que c'est comme ça, en réfléchissant, qu'on arrive à changer nos habitudes, mais c'est clair que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change, on ne devient pas végétarien du jour au lendemain non plus, il y a une période de transition.
Oui, il faut prendre ces exemples du bio ou aller, pour aller plus loin encore, la permaculture, c'est encore plus extrême la permaculture, parce que là on réfléchit sur vraiment la manière dont le végétal se développe par rapport à son environnement direct et naturel. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de la permaculture, mais c'est ce que j'ai compris. Il est clair qu'en effet, tout le monde ne peut pas se mettre à la permaculture. Mais je crois que c'est le principe, l'intérêt en tout cas de ces techniques-là, c'est de montrer d'avoir des exemples d'une autre agriculture et qu'on pourrait justement intégrer dans cette agriculture qu'on dit conventionnelle.
Et puis, comme tu disais, Sébastien, on a tout un modèle alimentaire derrière à remettre en cause. On sait qu'une grosse partie des terres cultivées servent à nourrir du bétail pour la consommation de viande. Donc effectivement, si on est dans une optique de continuer à manger de la viande à tous les repas, on n'a pas du tout assez de surface agricole pour produire suffisamment d'animaux de boucherie. C'est pour ça que ça va avec un modèle de remise en cause avec, par exemple, une consommation de viande moins, ce qui aura aussi des impacts sur la consommation d'eau, ce qui a des impacts sur les antibiotiques qui se retrouvent dans le milieu naturel. Enfin, il y a plein de...
La production de méthane aussi.
Voilà. On a tout un modèle alimentaire et des habitudes ancrées à remettre en cause aussi. Et il y a plein d'études qui montrent qu'avec cette remise en cause, on peut sans problème nourrir toute la population actuelle et à venir sur le globe.
Il y a un grand agronome qui, je vais reprendre sa formule, qui dit la sobriété peut être heureuse. Et tout est dedans. Effectivement, il faut repenser les choses et on peut vivre un peu différemment, mais je pense qu'effectivement, un peu plus de sobriété, un peu plus d'humilité, et on s'en sortira mieux.
D'humidité, t'as dit, c'est la pause.
D'humidité. Non, mais l'eau, je pense qu'aussi, dans l'avenir, l'eau. C'est vraiment, alors j'ai pas les chiffres exact en tête, mais la consommation d'eau, c'est énorme. Pour produire un kilo de viande rouge, je me demande si on n'est pas de l'ordre de 1000 litres d'eau.
Si, c'est ça.
C'est quelque chose comme ça.
Et justement, était née l'idée de manger des insectes, parce que pour une même quantité de protéines produites, on va utiliser 10 fois, voire même, je ne sais plus, plusieurs dizaines de fois, moins d'eau, en fait. Que le bœuf.
Et même en termes de végétaux, il me semble qu'avec 10 kg de végétaux, on peut produire 1 kg de viande, on produit 8 kg de protéines d'insectes, sans cholestérol, sans gras.
Bon, il faut que vous sachiez qu'on est des bons vivants quand même, nous, et donc on aime bien, la viande quand même. Mais oui, c'est malheureusement des choses qu'on devra peut-être modifier.
On va à présent faire une petite transition du coup d'agriculture à venir.
Revenir comme avant, c'est impossible, les gens ne vont pas revenir en arrière. Moi je pense parce que je suis fils agriculteur, on a quitté l'agriculture, mais quand je vois maintenant l'agriculture telle que c'est fait, auparavant nos anciens ils avaient un champ comme ça, un champ comme ça, un champ comme ça, avec du bocage. Et il pouvait y avoir des orages et tout ça, ensuite il y avait toujours au moins un talus, un bocage, il retenait un peu l'eau. Que maintenant on a des longueurs de terre, l'eau quand elle se met à dévaler, ben, en plus, bon, on veut urbaniser, ben, vous avez le parking, hein, quand l'eau tombe, on ne va pas passer à travers le goudron. Hein. Donc tout ça, pour revenir à l'arrière, c'est-à-dire qu'il faudrait supprimer certaines choses. Mais alors, est-ce que le monde est prêt à ça? Parce qu'on est dans un monde égoïste, chacun pense à soi. Hein. La réalité est là, chacun pense à soi. On peut faire plein de choses, mais surtout pas toucher à moi.
C'était le philosophe de l'émission. Je pense que là, tout est dit. Le vrai problème de la société, c'est ça, c'est l'individualisme. Et de ne pas vouloir voir plus loin que le bout de son nez et surtout le bout de son jardin. Quoi.
C'est en ça que l'État, normalement, a un rôle de régulateur et intervient soit par un biais contraignant, c'est-à-dire d'imposer des réglementations, soit par des biais incitatif avec de la contractualisation pour orienter le modèle social, économique, environnemental dans la direction qui nous semble la bonne. Donc on sort d'un modèle productiviste d'après-guerre, on est en train de se réorienter vers un modèle un peu différent. On est loin d'avoir obtenu un idéal, mais on va espérer être en marche, on va être positif.
Oui, et puis finalement on parle de bio, d'agriculture raisonnée, on n'invente rien, ça existait avant. Je veux dire, on réinvente la poudre, là, quelque part. Nos anciens, dans les années 50, 40, 50, mangeaient bio. Hein. Et c'est vrai qu'ils ne mangeaient pas de la viande tous les jours.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentait la confiture et le désordre et l'obscurité. Et les nids des oiseaux, on allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé, on se baignait tout nu, tout noir avec les petites filles. C'est le progrès.